De la colombine à la grosse commission, en passant par la pétoulette ou le méconium, le vocabulaire des excréments est d'une richesse absolument insoupçonnée. Il est vrai que la défécation est un thème qui reste toujours un peu compliqué à aborder en société. Il faut être entouré de convives très ouverts pour bien sûr oser disserter sur la question. Et pourtant, il y a beaucoup à dire et à découvrir sur le monde des excréments, un univers fascinant, par exemple pour les écosystèmes qui nous entourent, les mangeurs de bouse étant essentiels dans le recyclage de la matière organique. Voyage au pays des déjections donc cet après-midi avec mes invités Marc Giraud et Thierry Béraud. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue Marc Giraud, vous êtes naturaliste de terrain, illustrateur animalier et conférencier et vous publiez Safari dans la bouse et autres découvertes bucoliques. C'est aux éditions de Delachaux et Nestlé avec les illustrations hilarantes de Roland Garrigue. On va en parler avec vous. Thierry Béraud, vous êtes quant à vous photographe, réalisateur, producteur et scénariste et l'on vous doit plusieurs documentaires sur l'histoire des excréments. Un sujet inépuisable puisque vous avez réalisé plusieurs films pour Mona Lisa Productions sur la question. On va donc se retrouver dans un instant pour évoquer de multiples exemples qui risquent de beaucoup vous étonner autour des déjections. Vous saurez tout sur les mœurs des vaches, des abeilles, des éléphants ou autres scarabées. Et puis bien sûr, vous pouvez nous rejoindre avec vos messages et vos questions pour cette émission porte-bonheur sur franceinter.fr et également sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Le quiz de la tête au carré, ce sera dans la dernière partie de cette tête au carré avec deux nouveaux candidats qui vont s'affronter sur de nouvelles questions de science. Violaine Ballet est aux commandes. Le dossier a été préparé par Louis Chevillard.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et le lundi avec Axel Villard. Bonjour Axel.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui avec vous l'histoire d'une peluche de poussin manchot qui fait le tour du monde.
Et oui Mathieu, depuis la semaine dernière, le monde entier et le web surtout s'extasient devant les photos de la petite peluche de bébé manchot du CNRS de Strasbourg. L'équipe de Yvon Lemao et Cécile Le Boeck qui a publié dans la revue Nature Method une nouvelle méthode justement d'observation des colonies de manchots en Antarctique et en Subantarctique avec un faux bébé manchot téléguidé. C'est Yvon Lemao que j'ai joint par téléphone, qui vous raconte les aventures de sa petite peluche.
On s'est intéressé à deux espèces. Une première qui est territoriale, le manchot royal. Territorial, ça veut dire qu'il laisse le rover approcher, il se prépare, et puis le bastonne. Et on a démontré en août que ça ne le stresse pas. Il fait ça comme il le ferait vis-à-vis d'un congénère. Si un voisin passe trop près, il le bastonne.
D'accord.
Il passe l'équivalent de 6 heures sur 24 à bastonner. Et alors, ensuite, on est passé à l'autre espèce, le manchot empereur. Bien que le manchot empereur soit deux fois plus gros, deux fois plus puissant, quand le petit rover s'approchait, il reculait. Sauf quand on a commencé à le camoufler avec un faux poussin. J'avais déjà eu l'idée, 3 ans plus tôt, que ça pouvait être la solution pour pouvoir approcher suffisamment près les manchots empereurs. Beaucoup de gens me disaient, mais c'est ridicule, ça marchera jamais. Mais les faux manchots n'étaient pas suffisamment bien imités.
Alors c'est vrai que celle qui est très trompeur, hein, ce petit manchot tout ébouriffé avec 4 roues, mais pourquoi en arriver justement à cette solution pour observer les manchots alors?
En fait, jusqu'en 2011, la méthode consistait à mettre des bagues aux ailerons des manchots, mais les chercheurs se sont vite rendu compte que ça les gênait et que la bague diminuait à la fois leur espérance de vie et leur capacité à se mouvoir sous l'eau. Alors ils ont décidé d'installer de toutes petites puces sous la peau des manchots. Cette fois-ci, plus de gènes, mais des puces RFID qui font moins d'un gramme et qui ne permettent pas d'émettre très loin, à quelques mètres. Il fallait donc que les chercheurs se promènent à pied dans la colonie avec un détecteur pour relever les données. Et ça, bien sûr, ça ne laisse pas les manchots indifférents. Voilà comment on en arrive à un petit robot manchot qui, lui, passe inaperçu et qui permet de collecter toutes les informations dont les chercheurs ont besoin.
Alors, les recherches en elles-mêmes menées par Yvon Lemao sur le terrain sont, pour le coup, beaucoup moins légères.
Et voilà, malheureusement, il s'agit d'étudier l'impact du climat et du réchauffement sur la faune marine de l'Antarctique. Et le manchot fait partie des espèces particulièrement menacées. Écoutez Yvon Lemao.
Maintenant qu'on a démontré qu'on évite la perturbation liée à l'homme, on va utiliser cette approche. On va pouvoir suivre au jour le jour l'impact du climat sur la ressource et donc sur le succès reproducteur de ces animaux. Il y a déjà dans certaines régions de l'Antarctique, notamment dans la péninsule, cette partie qui remonte vers l'Amérique du Sud, il y a déjà une diminution dans une certaine région, à cause du réchauffement, de 70% des colonies de manchots adélie. L'effet est déjà dramatique. Donc c'est une réalité dans cette région-là qui est en avance sur les autres, si vous voulez.
Donc voilà, le robot a montré qu'il était efficace, on attend les résultats.
Oui, résultats importants évidemment qu'on va suivre naturellement dans la tête au carré lorsqu'ils seront publiés. Voilà pour cette histoire de manchots et de robots. Et de manchots, il en est également question dans ces histoires d'excréments, Marc Giraud, hein, parce qu'on peut les repérer comme ça en Antarctique. Hein.
Mais oui, parce que vous savez que les manchots, ils se tiennent chaud pour se reproduire. Donc ils font des masses compactes, ils font sur place, évidemment. Ouais. Je parle toujours de Fiente, hein,
évidemment.
C'est mon sujet.
On avait bien compris.
Donc ça fait quand même des tâches fiantastiques de 1 ou 2 km carrés.
Ah oui, donc ça se voit de loin.
Et ça se voit depuis le satellite Landsat, avec des images haute définition. On peut repérer comme ça des nouvelles colonies de manchots qu'on ne connaissait pas, sans se mouiller, et là, sans avoir froid et sans expédition coûteuse.
Voilà, c'est un des exemples de votre livre Safari dans la bouche. J'espère qu'on va pouvoir réaliser cette émission sans ce petit bruit de fond qui nous accompagne depuis le début de votre chronique, Axel. Il faut dire qu'il y a des travaux dans les couloirs de France Inter, donc on en fait même profiter les auditeurs cet après-midi. C'est extrêmement agréable. Allez, à tout à l'heure.
Prochaine.
Merci beaucoup. Safari dans la bouse après Miossec.
Je t'ai dans la peau, je t'ai dans mon âme, comme on souffle le soir, la braise sous les flammes. Je t'ai dans la peau, comme un homme sur terre croit que c'est pour bientôt la toute fin. Jamais pensé y planter mes dents jusqu'à enseigner.
Bienvenue à bord.
La tête.
Vous avez pris un petit déjeuner?
Pardon?
Glucides, protéines, lipides, ni café, ni sucre. J'aime bien savoir que mes effectifs maintiennent en forme leur système cardiovasculaire.
Sur France Inter.
Un safari dans la bouse, voilà à quoi nous vous convions cet après-midi dans la tête au carré pour partir à la découverte du monde fascinant et insoupçonné des excréments. Nos guides très spéciaux, le naturaliste Marc Giraud, le réalisateur et producteur Thierry Béraud, et toutes vos questions sur la page de la tête au carré sur franceinter.fr et puis également sur les réseaux sociaux avec les messages courts sur le mot-clé l'attaque. Et visiblement le sujet vous inspire parce qu'on a déjà beaucoup de messages et de questions qui arrivent. Marc Giraud, je me souviens bien vous avoir invité il y a quelques années pour un premier safari dans la Bouze, qui nous avait laissé un souvenir impérissable.
Ça fait un moment que ça me tient, oui.
C'est vrai, oui. Hein, c'est ça, oui. Alors là, vous revenez donc avec un livre illustré par les dessins hilarants de Roland Garrigue.
Oui, géniaux.
Un sujet donc que vous avez bien médité et qui semble totalement inépuisable.
Et oui, c'est un domaine qui concerne tout le monde, quotidiennement, enfin je vous le souhaite en tout cas. Et en revanche, les éditeurs sont un peu frileux pour éditer
ce genre
de choses. À chaque fois, on m'a dit c'est pour les enfants, parce qu'il y a un âge cacaboudin, etc.
Ouais.
Mais ça intéresse tout le monde.
Mais bien
donc
sûr.
Là, c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes, parce qu'on apprend beaucoup de choses.
Mais c'est ça, il y a beaucoup de science autour des crottes.
Absolument. Ma spécialité, un peu comme Thierry, j'aime bien explorer là où on ne regarde pas.
Oui.
Et justement, c'est infini. C'est un maillon
c'est
clé
vrai
de la chaîne alimentaire.
C'est vrai qu'à priori, on observe peu, oui.
Ben oui, c'est repoussant. On est une société qu'on appelle fécophobe, c'est-à-dire qu'on ne veut pas regarder ces choses-là. Alors qu'il y a des sociétés fécophiles.
Oui, voilà.
Absolument. Ça, c'est dans le dictionnaire à la fin.
Oui,
je me suis régalé aussi pour le dictionnaire.
Ah oui, j'ai beaucoup ri en le lisant. Oui, ça, c'est vrai.
Donc, je ne vais pas commencer avec l'humour glissant, mais il y a vraiment de la matière.
Oui,
donc,
bien sûr.
Pendant 20 ans, j'ai pris des notes. Et je voulais faire quasiment une encyclopédie. Donc là, c'est la version expurgée et grand public. Voilà.
Voilà. Avec Delachaux et Nestlé, donc, qui a osé publier ce livre qui est extrêmement drôle.
Et je les remercie d'avoir enfin pu faire ma bouse.
Exactement. Et c'est très réussi. C'est Roland Garrigue qui a fait les illustrations. Il faut dire un mot.
Génial.
C'est qu'est-ce qu'il est drôle, ce
dessinateur. Oui, il est génial.
Il met vraiment en avant tous ces articles que vous avez écrits.
Oui, rien que la couverture Safari dans la bouse, j'aurais jamais imaginé. Oui. Je dessine aussi. Et lui, il a vraiment fait un safari avec une petite voiture, des gens qui regardent, et
c'est
le scarabée rhinocéros, ça répond. Enfin bon, c'est vraiment génial.
Et j'avoue que j'ai éclaté de rire plusieurs fois en lisant votre ouvrage, voilà, et on va en discuter pendant toute cette émission. Thierry Béraud, vous êtes un producteur et réalisateur très pipi-caca, justement, hein, si je peux me permettre, puisque plusieurs films sur l'histoire des excréments, hein, et très récemment, un film sur les super-pouvoirs de l'urine, qui sera diffusé vendredi 14 novembre prochain sur Arte. Donc le sujet vous fascine, visiblement.
Hein. Sur Arte à 22h20, en fait, tous les sujets que les autres ne font pas me fascinent parce que je trouve qu'il y a toujours un côté intéressant. Par exemple, j'avais démarré en créant ma société il y a 25 ans sur les puces, les poux, les acariens, toutes les bestioles que les gens n'aiment pas. Et quand on les regarde de près, on leur trouve tout un tas de choses et de relations fantastiques. On a plus de relations avec une mouche qu'avec un lion parce qu'on ne vit pas avec les lions.
Certes.
Et c'est pareil au niveau de l'urine et c'est pareil au niveau des excréments. Il y a énormément d'histoires qui se sont tissées entre l'homme et les scientifiques, et en fait, ces films racontent ça. Alors, j'avais fait une première salve en 2008 avec 3 documentaires sur les excréments.
Et il y avait La Révolution du Trône, Sacré Bouze et Au nom de la Rose.
Exactement.
Ouais, il faut c'était les titres de nos documentaires.
L'aborder un peu avec humour pour que la chose puisse passer. Et cette fois-ci, je me suis concentré sur l'urine, mais c'est très complémentaire, et les super pouvoirs de l'urine. Parce qu'en fait, il y a une sorte de dualité, de complémentarité entre la mère et l'urine par rapport aux usages qu'on peut
faire. Et on en fait beaucoup de choses dans plein de pays, d'ailleurs.
On en fait énormément de choses dans plein de pays, que ce soit pour faire de l'énergie, pour l'alimentation, pour se chauffer. Il y a des tas de déclinaisons possibles. Ça ne manque pas de matière.
Voilà. Et justement, chaque pays semble avoir sa spécialité. À Tokyo, par exemple, on fait du biogaz.
Dans cette usine, le biogaz permet la production de 7 millions de kWh par an. Cette énergie alimente les 5 machines de l'usine de mécanique de Chongqing. Ce système a été mis en place depuis 3 ans. Et ça fonctionne toujours bien.
Des cuves géantes stockent les excréments. Mais attention, interdiction de fumer à cause des centaines de tuyaux remplis de gaz fermenté. Les fesses des employés et des villages voisins ne suffisent évidemment pas pour faire tourner une usine. Un élevage de cochons cohabite donc au sein de l'entreprise qui se sert aussi de leur lisier très concentré en bactéries.
L'idéal est de mélanger et de faire fermenter la merde des animaux qui contient beaucoup de gaz carbonique et celle des humains qui renferme énormément d'azote. Ce mélange permet d'obtenir une meilleure fermentation.
Voilà, donc tous les Chinois auront reconnu la langue chinoise et non pas japonaise dans cet extrait puisqu'on est en Chine.
Oui, totalement.
Et non pas à Tokyo.
totalement, et c'est un plus pour des millions de Chinois d'être équipés de biogaz, parce que ça permet en fait à la fois de recycler ses propres excréments, mais également, quand on est à la campagne, de recycler ceux des cochons.
Et il y a des familles qui sont autonomes d'ailleurs grâce à ça. Hein.
Totalement autonomes. Ouais. Les familles que j'avais filmées faisaient fonctionner leur chaîne IFI, et se chauffaient aussi avec.
Grâce aux excréments des cochons.
Et les leurs, bien sûr. Et en plus, faisait de la cuisine. Et ça n'a pas d'odeur particulière. Mais pour parler d'énergie, si je fais la comparaison avec l'urine, par exemple, avec l'urine de 1200 personnes, on peut fabriquer de l'hydrogène. On peut avoir un plein d'hydrogène pour une journée. Et avec l'équivalent de la population des Pays-Bas, on peut faire décoller une fusée. Donc il y a des tas de
on ne peut pas faire fonctionner sa voiture tous les jours. Hein.
Alors pas encore.
En autosuffisance, ce n'est pas possible. Mais si on est plusieurs, si on s'y met avec ses voisins, pourquoi pas après tout. Hein.
Si on fait du covoiturage, pourquoi pas.
Exactement.
On ne peut pas se retenir.
Voilà, effectivement. Donc il y a plein d'idées et d'usages intéressants autour des excréments ou de l'urine, puisque ce sera l'objet de votre prochain film le 14 novembre, donc vendredi sur Arte. Marc Giraud, puisque vous, votre sujet, c'est la bouse hein, dans ce livre. Autour d'une bouse se jouent des choses extrêmement intéressante et totalement inattendue, parce qu'on peut parler d'un véritable écosystème.
Ah bah oui, c'en est un, bien sûr. Et je conseille à tout le monde de se pencher un peu et de mettre le nez dedans, comme je le fais souvent. Je passe un peu pour un fada, parce que mon appareil photo trempe un peu dedans, mais c'est vraiment passionnant tout ce qui s'y trouve. Ouais. D'abord, c'est un rendez-vous amoureux pour plein d'animaux.
Ah oui, ça c'est très
mouches,
inattendu.
Des bousiers, etc. Bah, pour eux, c'est... On est tous l'amateur de déchets, d'un autre déchet. Nous, on respire de l'oxygène, c'est un peu le déchet des plantes. Alors, ne nous moquons pas des amateurs de merde, parce qu'eux, ils nous servent à quelque chose. Ouais.
Donc, il y a des parades nuptiales au-dessus des bouses.
Ah oui, tout à fait. Notamment une toute petite mouche qui s'appelle Sepsis, on dirait une petite fourmi volante, qui dégage, le mâle dégage un parfum aphrodisiaque avec les genoux, par les genoux. Vous vous rendez compte?
Oh, c'est original.
Dégager un parfum sur les bouses pour séduire, il faut quand même le faire.
Et par les genoux en plus.
Oui. Donc, il y a les scatophages du fumier, ce qu'on appelle très vulgairement les mouches à merde. Mm-hmm. Qui sont passionnantes. Il y a un scientifique anglais qui s'appelle Geoffroy Allen Parker, qui a observé comme moi pendant des heures ces mouches et qui a découvert un concept scientifique qui est la compétition spermatique. Parce que les mouches femelles sont très volages, donc les mâles se battent pour transmettre leur descendance.
Ouais.
Donc il y a une vraie compétition et il y a même des scientifiques très pointus qui se sont amusés à congeler des mouches à merde en plein accouplement. Ils les ont congelées, ils les ont coupées en tranches. Ils se sont aperçus que la femelle avait un système de pompe pour sélectionner les spermatozoïdes du géniteur qui lui plaisait. C'est-à-dire qu'elle fait un contrôle des naissances et que même si elle a eu beaucoup de partenaires, dont certains pas forcément voulus, elle sait quel sera le géniteur. Voilà. Ouais. Tout ça sur une bouse.
Il y a beaucoup de questions déjà sur franceinter.fr. Myriam nous dit ceci. Des éléments naturels se désagrègent rapidement sous l'action de micro-organismes dans les excréments. Malgré tout, dans les recherches sur la préhistoire, est-ce qu'on peut retrouver certains de ces éléments identifiables encore aujourd'hui?
Bah, c'est le cas dans les coprolites, oui. En fait, il y a un chercheur sud-américain brésilien qui s'appelle Adotto, qui a d'ailleurs révolutionné totalement les théories sur quelles sont les premières civilisations qui sont arrivées au Brésil. En fait, grâce à un parasite qu'il a découvert dans des fesses, dans des excréments de momies. Et en fait, ce parasite ne pouvait pas résister au grand froid. Donc, les premiers Amérindiens ne sont pas venus essentiellement du détroit de Béring, mais sont venus aussi de Micronésie, où on retrouve ce parasite.
Donc il y a encore effectivement des fesses qui passent l'histoire.
Ah oui, les coprolites, ça veut dire copro, c'est excrément, lite, c'est pétrifié, quoi, excrément pétrifié.
Ouais.
Il y a un musée d'histoire naturelle à New York qui en conserve plein. Et il y en a une, c'est écrit « Déposé par Theodore Roosevelt », parce qu'il était très collectionneur.
Très chic. L'accumulation des boulettes fécales, c'est très important dans le terreau, par exemple, la Marc Giraud. C'est ce que vous rappelez dès le début de votre livre.
Ah oui, Darwin, le premier, s'était aperçu que les vers de terre digéraient, il disait, toute la terre de l'Angleterre était passée par les intestins des vers de terre qui le rejettent sous forme de turricules. Et il se fait, donc c'est des excréments en tortillon que dégagent les vers de terre. Il s'en faisait envoyer du monde entier. Des crottes de vers de terre, le grand Darwin.
Ouais.
Et il a fait un bouquin passionnant où il s'est aperçu de l'importance de toutes ces déjections dans la richesse de la terre. Parce que tout ce qui est excrément, justement, est transformé chimiquement et revient aux plantes. C'est vrai. C'est vraiment la clé de l'écosystème.
Ouais. Au plus profond même des océans aussi. Alors ça, c'est intéressant, puisque vous dites que les principales richesses organiques proviennent des excréments, des animalcules du plancton.
Ah ben oui, hein, y a le monde entier. Alors chez nous, c'est les vers de terre, etc. Dans les tropiques, c'est les boulettes fécales des termites. Ouais. Et dans les océans, les abysses sont tapissées des crottes de plancton. Alors imaginez...
Donc c'est des crottinettes, hein.
Ah, des micro-crottinettes, parce que c'est 0,01 mm. Hein. Donc c'est une espèce de neige qui tombe, qui met 2 à 3 mois à tomber, comme ça.
Et dans les profondeurs.
Voilà, et ouais, c'est ça la richesse du sol et qui permet la vie dans les abysses aussi.
Ouais, donc c'est une espèce de neige marine, effectivement, ouais, et alors qui a un rôle très important parce qu'en plus elle capture le carbone, c'est
ah
ça?
Ah oui, sans ces petites bêtes dont on n'a même pas notion, on ne connaît même pas leur existence, nous on vivrait moins bien, on serait encore plus pollués. Ce sont des dépolluants en effet. Ouais. Ils luttent contre l'effet de serre.
Donc respect, effectivement, respect pour ces crottinettes.
Mais, elle fabrique aussi beaucoup de carbone parce que les termites pètent énormément.
Et les termites.
Les termites, ah oui. Alors il y a aussi l'opposé, tu vois.
Alors le méthane.
Alors
on va
tout de suite, on en parle.
Voilà,
on en parle. On va sur le pet de vache. Hein. On n'attend pas. D'abord, parce qu'il y a des questions d'auditeurs. Il y a Larry qui est très énervé à ce sujet-là. Il dit le méthane des pets de vache aurait été la cause du trou dans la couche d'ozone.
Non, c'est ridicule. D'abord, les dinosaures devaient péter largement plus et ils n'ont pas bouleversé le climat. Une vache dans un pré, bien sûr, ça émet d'abord du méthane plutôt par les roues que par les pets.
Ah, c'est ça en plus. Voilà. Parce qu'on confond
attention,
souvent.
Ne nous trompons pas de sens.
Non. Voilà.
Enfin, les pets jouent aussi leur rôle, mais c'est tellement folklorique qu'on ne retient que ça.
Ouais. Mais tout le monde n'a pas le même type de pets. Ça dépend en fait de l'alimentation que l'on a. Et
bien
certains
sûr
d'entre nous se rappellent sûrement de Joseph Pujol qui faisait des concerts avec ses pets dans les années 1920.
Il devait être végétarien.
Il était sûrement végétarien.
On buvait plus quand on est végétarien.
Oui. Il y a plus de fermentation. Les excréments sont plus conséquents, mais ils sentent moins fort que les carnivores.
Ouais.
Une petite parenthèse. Les vaches, on n'avait pas fini. Donc une vache sur dans un pré, oui, ça ne joue pas sur l'effet de serre. Ce qui joue, ce sont les élevages concentrationnaires.
Ouais.
Parce que déjà, ces vaches sont hors sol. Elles sont nourries avec du soja pour lequel on a déforesté l'Amazonie. Donc déjà, effet de serre. Et ensuite, il y a une telle concentration totalement artificielle. Donc, pour lutter contre l'effet de serre, la première solution, c'est de manger moins de viande.
C'est
déjà,
ça.
Déjà.
Exactement.
On est tous responsables de ça.
Donc, il y a un impact sur le réchauffement climatique.
Sur notre santé, sur l'environnement, sur les humains. Parce que pour déforester l'Amazonie, on vire des Amérindiens. Enfin, il y a des catastrophes en chaîne à cause de notre beefsteak.
Ouais. Marc Giraud, donc effectivement, à la fin de votre ouvrage, vous proposez un dico crotte. Et alors ça, c'est une très, très bonne idée parce que les noms d'extraits...
Je me suis régalé.
Les noms d'excréments sont très très nombreux. Alors le colombin ou l'étron qui sont assez connus, ouais, quand même du grand public. Et puis les cordylés par exemple, ça ce sont des crottes de lézard.
Oui.
Les endocoprides, alors ça c'est quoi l'endocopride, hein? C'est un bousier qui niche à l'intérieur même de l'excrément.
Ah oui d'accord, oui, ça, hein, ce sont les mœurs des bousiers parce qu'il y en a qui sont à l'intérieur, ouais, il y en a qui sont dessous.
Exactement.
Et il y en a qui transportent avec des boulettes. Donc chacun a son nom précis.
Le télécopride c'est celui qui transporte les produits des excréments.
Oui, mais les scientifiques vous disent ça très très sérieusement, c'est un langage un peu abscon, mais c'est très rigolo.
Mais c'est très joli. Le paracopride, donc c'est le bousier qui niche dans le sol sous l'excrément.
Voilà, là on a les trois.
Voilà, il y a vraiment les termes pour dire ouais, absolument tout ce qui se passe. Et puis, donc vous le disiez tout à l'heure, il y a les cultures humaines qui considèrent les excréments sans tabou. Donc ça, ce sont les fécophiles ou au contraire les fécophobes, hein, c'est ça. Et les pétoulettes, ça c'est très mignon. Il y a des noms aussi pour chaque animal quasiment. Hein.
Ah oui, bah les fumées, la moquette, enfin pas fumées, la moquette, mais oui, ça c'est les cerfs, c'est un langage un peu de chasse, hein, où, suivant les saisons, les excréments ne sont pas les mêmes. Au printemps,
voilà,
c'est très liquide. Donc, même les crottes de bique, c'est pareil. C'est rond quand c'est sec.
Et ça
peut s'agglomérer quand c'est...
Oui.
Là, on arrive dans des terrains intéressants.
Donc, Thierry Béraud, effectivement, il y a une forme, une variété de crottes aussi en fonction des espèces animales. On trouve un petit peu de tout. Hein.
Oui, en fait, montre-moi ta crotte, je dirais qui tu es.
Bien sûr.
On peut faire pareil avec l'urine, mais d'une façon encore plus pertinente parce que l'urine, on pensait il y a simplement une cinquantaine d'années qu'il y avait 100 composants dans l'urine, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un Chanel numéro 5. Et on s'aperçoit maintenant qu'il y en a beaucoup plus que le Chanel numéro 5, il y en a à peu près 3000. Et on est même arrivé à la notion de... comment dire, d'empreinte comme une empreinte avec un doigt,
ouais,
au niveau de l'urine. Donc il suffit de collecter de l'urine sur une scène de crime et on peut identifier la personne qui est responsable du crime. Et ce qu'on ne peut pas faire encore avec les excréments. Donc il y a une précision dans l'urine encore plus importante que dans l'excrément. Mais
les excréments, pas faire nous, mais les animaux y arrivent. Un chien qui se balade, lui, c'est comme nous relever notre messagerie. Il sait tout ce qui se passe autour.
Il dépose ses petits messages. Voilà. Il passe son temps à relever ses mails.
Il sait très bien si Médor a bien mangé, si Mirza est en chaleur. Il sait tout. Ouais. Il sait bien des choses qu'on ne sait pas nous-mêmes.
Oui. Vous dites d'ailleurs que les animaux aiment faire leurs besoins souvent au même endroit.
Oui, ils marquent leur territoire parce que ça a l'avantage de sentir de loin et de rester un petit moment. Donc, ils balisent comme ça, tout à fait, absolument. Oui. Et c'est aussi une méthode de séduction. C'est ce que j'appelle les latrine lovers. Oui. En fait, la femelle sent à travers les crottes du mâle s'il a un bon territoire. Je vois pas pourquoi ça vous fait rire. Non, s'il a un bon territoire, s'il a bien mangé, donc s'il est bon chasseur. Et il y a une salamandre à dos rouge aux États-Unis, justement, les femelles sont très très attentives aux crottes des mâles. Donc quand un mâle veut séduire, il se lâche.
Bon, voilà. Écoutez, on vous retrouve dans un instant, on a envie d'en savoir plus avec cette émission palpitante donc sur les excréments. Marc Giraud et Thierry Béraud, vous êtes nos invités. Et beaucoup de questions pour vous sur franceinter.fr et sur les réseaux. Cold War Kids avec First.
La tête au carré.
Et c'est là où je veux en venir.
Au carré.
Je crois savoir où ils vont.
Sur France Inter.
Voilà, fabuleuse histoire d'excréments et safari dans la bouse avec mes invités, le naturaliste Marc Giraud, le réalisateur et producteur Thierry Béraud. Vos nombreuses questions donc sur les réseaux et sur franceinter.fr. Marc Giraud, vous me disiez tout à l'heure en rantaine le mal que vous aviez eu à faire ce livre, donc le tabou qui entoure encore la question des excréments.
Oui, je pense que la sexualité, c'est bon, on peut en parler même devant les enfants, mais le caca,
il y a très peu de livres sur la question, ça n'existe quasiment pas.
Que pour les enfants.
Ouais.
Je je pense que c'est le premier pour adultes.
Est-ce qu'à la télévision, vous avez été confronté au même problème, Thierry Béraud?
Exactement, en fait. Grosse haleine, que le de filles, je suis arrivé à le faire passer dans la collection Découverte, mais ça a été compliqué, en fait. En 2008, quand j'ai fait Les Excréments, j'avais mis 2 ans pour arriver à convaincre de faire cette série. Et là, pour l'urine, il m'a fallu aussi passer du temps, même si ça avait fait une excellente audience sur Arte. Et parce qu'il y a un tabou, de toute façon.
Ouais.
Et bon, il faut le courage d'un chargé de programme pour aller pousser ça.
Mais, ouais, mais vous avez fait de l'audience.
Hein. Et ça fait de l'audience.
Voilà. Hein, mais Marc Giraud, vous avez eu beaucoup de mal à trouver un éditeur.
Oui, absolument. Donc, merci de Lachaud. Et je suis sûr que ça va faire un carton. Hein.
Bon, bah, écoutez, vous êtes confiant. C'est bien Safari dans la bouche.
Pour Noël, avec les crottes de chocolat.
Et autres découvertes bucoliques. Exemple, justement, à nouveau, autour de ces histoires d'excréments pour vous, Thierry Béraud. Extrait de votre trilogie sur les excréments. Voici un extrait autour d'une pilule du Kremlin. On écoute cette histoire étrange.
Ça va là? Et là? C'est ici. Je vous recommande la pilule du Kremlin. Ça vous aidera à normaliser le transit de vos selles.
La volonté de nettoyer son intestin s'enracine dans les fantasmes du péril fécal. Et c'est un désir qui est purement fantasmatique. Donc c'est, du point de vue physiologique, c'est un contresens. Le côlon n'a pas à être nettoyé. Donc point besoin de purger, point besoin de lavementer ou d'inventer je ne sais quel ustensile pour pouvoir vider, nettoyer ce côlon. C'est vraiment du fantasme.
Ah oui, c'est ça, c'était le nettoyage du côlon, en fait, Thierry Béraud.
Oui, c'était en fait un fantôme de Brejnev, mais qui remonte à loin, parce que dans notre histoire, il y a toujours eu des lavements, etc. Et en fait, il avait demandé à des ingénieurs de Soyouz de mettre en place une petite pilule qui s'absorbait par la bouche et qui permettait de rétracter le côlon et de virer les résidus merdeux récalcitrants. Ouais. Et c'était devenu un mos dans la société soviétique. Les gens achetaient en douce la pilule de Brejnev.
Ouais. C'est une capsule qu'il fallait avaler. Mais le problème, c'est qu'il fallait la récupérer aussi après. Hein.
Il fallait la récupérer aux toilettes, évidemment.
C'était pas biodégradable.
Malheureusement.
David nous dit ceci. Malheureusement, la biodiversité des coprophages liés aux prairies naturelles est aujourd'hui très menacée compte tenu de l'impact négatif des vermifuges utilisés pour traiter le bétail. Marc Giraud,
c'est vrai. J'ai même eu des ennuis avec une revue équestre, parce que j'avais dit du mal d'une molécule que je ne vais pas citer ici pour ne pas vous attirer d'ennuis. Mais vraiment, les vermifuges sont un vrai problème. Parce qu'ils sont rémanents, c'est-à-dire qu'ils tiennent longtemps. Donc ils tuent non seulement les parasites, mais ils tuent aussi les chauves-souris ou les chouettes qui se nourrissent des bousiers. Donc ça, c'est toute une chaîne qui meurt avec ça. Et en Camargue, par exemple, on sait qu'il n'y a plus de scarabée sacré. Vous savez, le fameux des Égyptiens qui roule sa bouse. Il n'y en a plus à cause des vermifuges pour les taureaux et les chevaux. Les derniers scarabées qu'on a trouvés, c'était près des campings sauvages où les touristes allaient faire leurs besoins. Donc s'il vous plaît, ne vermifugez pas les touristes.
Absolument, oui. Mais alors, c'est vrai que ça, c'est le rôle véritablement de ces coprophages qui est extrêmement important pour les écosystèmes dans lesquels ils vivent.
Ah bah alors, on cite toujours l'exemple de l'Australie. Au XVIIIe siècle, on a amené des milliers et des milliers de bovins qui faisaient leurs excréments. Ça allait jusqu'à 350 à 450 millions de bouses chaque jour.
C'était déjà une histoire de colons à l'époque.
Donc voilà, absolument.
Et alors, c'est une catastrophe.
Ça stérilisait le sol, donc c'était un problème écologique, économique énorme. Donc il a fallu aller chercher des bousiers en Afrique et en Europe, adaptés aux différents climats australiens, pour venir dégrader les bouses australiennes. Ouais. Et ce sont ces petites bêtes-là et les entomologistes qui ont sauvé l'Australie quand même.
Mais c'était très, très critique comme situation sur place.
Oui, c'était critique. On ne pouvait plus déjeuner parce qu'il y avait énormément de mouches, etc. Et sans ce scientifique australien qui a importé cette espèce de bousier, la situation aurait été catastrophique.
Ouais.
Et tu parlais de vermifuge. Moi, je voulais parler d'hormones. Il y a un peu le même problème avec l'urine humaine. En fait, on n'a pas le droit d'épandre l'urine humaine dans les champs à cause de traces d'hormones. Ce que ne font pas les Chinois. Les Chinois récupèrent l'urine des jeunes garçons ou des jeunes filles parce qu'ils savent qu'ils sont moins susceptibles de prendre des médicaments. Et c'est énormément répandu dans les champs.
Mmh.
Et on le faisait, moi je me rappelle, on faisait ça. Chez ma grand-mère, il n'y avait pas le tout à l'égout. On faisait ça il y a tout simplement 30 ans. Donc en fait, il y a toute une approche à cause de la chimie qui n'est plus possible aujourd'hui. Et ça, c'est un message important.
L'accumulation des déjections d'oiseaux utilisées comme engrais, c'est le guano.
Ah là là, l'expression c'est le Pérou ou c'est pas le Pérou, ça vient de ça.
Pourquoi ?
En fait, au 19e siècle, on a récolté des millions de tonnes d'excréments d'oiseaux, donc de guano. Et ça a provoqué des fortunes énormes. Donc c'est ça. Il y a même eu une guerre entre l'Espagne et le Pérou, qui était la guerre du guano.
Oui.
Tellement c'était une manne, cette histoire-là. Ben, c'est ce que disait Thierry, c'est-à-dire que ces excréments, ce sont une richesse dans le cycle alimentaire.
Et c'est un excellent fertilisant pour les plantes.
C'est bien. Ben oui, c'est de l'engrais, absolument. Oui.
Les chauves-souris, évidemment. Il y a une question d'ailleurs d'un de nos auditeurs, si je la retrouve. Le guano des chauves-souris, voilà, à l'instar de celui des oiseaux, est-ce qu'on peut le recycler ?
Oui, absolument. Et ça se vend même sur Internet, le guano de chauve-souris, pour les connaisseurs.
Ouais.
Oui, ça se vend, mais il en faut une bonne quantité, hein. C'est pas pour 100 grammes. Hein.
Alors, vous posez des questions absolument cruciales également dans ce livre. Comment font les chauves-souris, justement, pour faire leurs besoins, sans s'en mettre partout, puisqu'elles font la tête à l'envers ?
C'est une blague de scientifiques, de chauves-souris qui sont la tête en bas, qui discutent, et il y en a une qui dit à l'autre, ça te fait peur, la vieillesse ? Et l'autre dit, non, la vieillesse, non, mais alors l'incontinence, oui.
Voilà, c'est ça.
Mais oui, faut,
alors, comment elles procèdent ?
Elles font des acrobaties pour éjecter leur guano, parce qu'on dit aussi du guano pour les chauves-souris. Sinon, elles font aussi en vol. Et c'est comme ça qu'elles disséminent les graines dans les forêts tropicales et ailleurs. Elles sont très, très importantes parce que les excréments transportent des graines. Ça aussi, c'est un point très, très important des excréments.
Ouais. Pour la dissémination donc, dans la nature et la fertilisation. Ouais. Donc, hein.
Les éléphants, c'est une quarantaine d'espèces d'arbres qui sont disséminées grâce au crottin d'éléphant.
Ouais. La couleur blanche des excréments d'oiseaux, précisément, Marc Giraud, c'est
ça, c'est l'urine.
D'accord.
Parce que souvent, les oiseaux, les rapaces, par exemple, ils rejettent une partie par le bec, c'est les pelotes de réjection. Donc, ce qui reste derrière, c'est le blanc, c'est l'urine.
Mm-hmm.
Le cacadois, par exemple, les oies vont très vite et rejettent très vite. Et ça, c'est un signal aussi, par exemple, pour les cormorans, pour savoir s'il y a une bonne place pour nicher sur les rochers au bord de la mer. Ils regardent les fientes blanches. Donc, s'il y en a un peu, ça veut dire que le site est bon. S'il y en a beaucoup, c'est un peu comme les étoiles pour un hôtel. Si c'est vraiment très, très blanc, c'est que c'est un très, très bon hôtel. Donc, ils vont nidifier là.
Oui. Larry demande, est-ce qu'une plante carnivore produit des fesses ?
Ah !
Est-ce que c'est une colle ?
Alors, j'ai demandé à Francis Allais quels étaient les excréments des plantes. Le grand botaniste, comme vous le savez. Et pour lui, il a une théorie, c'est la lignite. C'est-à-dire, c'est le bois qui a au milieu, qui est mort, qui serait un excrément qu'elle garde en elle pour faire leur propre squelette. C'est sa théorie à lui. Voilà.
Thierry Béraud, un professeur aurait même inventé les premiers steaks à base d'excréments humains.
Ouais.
C'est vraiment très dégoûtant. Mais on va quand même écouter un extrait du documentaire que vous avez réalisé autour de ce sujet.
Ça, c'est la viande artificielle obtenue à partir des boues. Au début, dans ce process, on extrait les protéines. Et à la fin, on ajoute un additif avant sa mise en forme sur une machine. Et comme ça, on fabrique cette viande.
Pour le professeur Ikeda, le principal problème reste, mon Dieu, la barrière psychologique.
Comme c'est fait à partir de la chose qui sort de l'homme, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde prêt à la consommer.
C'est le moins qu'on puisse dire. Thierry Béraud, le caca burger, c'est comme ça qu'il est surnommé.
Alors le caca burger, en fait, c'est fait plein de bactéries, donc plein de protéines. Et les bactéries étant des protéines. Et en fait, le process qu'a inventé ce japonais, c'est un process de chauffage. Alors ça coûte évidemment très cher. C'est 400 fois le prix d'un steak classique. Mais comme il aime le dire, vous pouvez, si vous ne voulez pas manger du caca burger, vous pouvez toujours boire votre urine, comme des millions de personnes dans le monde.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais du point de vue marketing, c'est quand même compliqué de vendre un tel produit. C'est quand même les briques, toujours au Japon d'ailleurs, qui sont réalisées à base d'excréments. Alors, l'idée est très très bonne, mais c'est vrai que c'est dur à vendre. Hein.
La grosse difficulté, en fait, c'est que quand on tire notre chasse d'eau, on fait bien sûr pas un geste qui est très civique, et on a une partie de tout est mélangé, urine et excréments, et l'avenir c'est de séparer les deux. Alors si aujourd'hui on récupère les excréments pour faire des boues, ce qu'on appelle des boues, et ces boues sont utilisées au Japon notamment pour faire des briques, ça, c'est le cas également en Chine. L'objectif, ça serait dans l'avenir d'arriver à installer des toilettes un peu particulières qui permettent de faire le tri en amont, parce que le coût du traitement est excessivement cher. Et c'est un des plus gros problèmes écologiques actuels, alors que c'est de la matière précieuse, parce que on a de l'énergie avec les excréments, on a aussi de l'énergie avec l'urine.
Mmh. Alexis demande sur franceinter.fr, Marc Giraud, est-ce que les excréments de baleines se diluent dans l'eau?
Déjà, elles sont très liquides, hein, et elles sentent pas bon. Il y en a qui sont roses bonbons.
C'est vrai.
Hello Kitty. Oui, parce que c'est comme les flamants roses, ça mange des petites crevettes pleines de caroténoïdes et de pigments, donc ça fait des crottes roses bonbons parfois. Ouais.
Stéphane nous dit, dans certaines civilisations, effectivement, les individus boivent leur propre urine pour lutter et prévenir certaines maladies, entre autres.
Oui, l'urinothérapie est utilisée par énormément de personnes dans le monde. En Chine, c'est 10 millions de personnes, et notamment il y a un village où des personnes vivent à plus de 85 ans, et 30% des habitants de ce village utilise l'urinothérapie. Mais il y a des exemples très simples. Par exemple, Madonna se pisse sur les pieds quand elle est le matin, quand elle prend sa douche. Et ça, c'est
et vous
le
racontez
Alors, il y a des cigognes qui font ça. Mais, c'est autre chose.
Je ne le raconte pas dans ce documentaire, mais il y a tellement de matière qu'il en faudrait plusieurs. Mais c'est très très bon pour les problèmes de peau. Il y a temps d'usage de l'urine. C'est d'ailleurs utilisé dans nos cosmétiques, sans que les gens le sachent. L'urée est présente dans beaucoup de shampoings, dans beaucoup de pommades, etc. Et aussi les excréments de rossignol, pour faire un petit clin d'œil à Marc, sont utilisés au Japon pour le maquillage des gachas, pour avoir un teint très blanc et un teint très beau.
Les enzymes digestifs qui sont bons pour la peau.
Ouais. Exactement. Ouais.
Alors, produits antiseptiques aussi, parce que les animaux les utilisent, les excréments par exemple.
Les vautours, ils ont des sucs digestifs super puissants qui détruisent toutes les maladies, qui dissolvent des os. Donc, ils se font souvent sur les pieds, ça leur fait une pommade rafraîchissante et désinfectante.
Exactement. Et les primates boivent leur urine très très souvent, dans quelles que soient les espèces de primates.
Marc Giraud, certains animaux se fabriquent des toilettes, comme le blaireau. Il y a une question d'un auditeur qui connaissait visiblement cette histoire aussi.
Les naturalistes savent ça. Les crottes, pour le naturaliste, c'est les enquêtes à la Sherlock Holmes. Donc on sait très bien, quand il y a un petit pot bien propre avec des crottes dedans, c'est le blaireau. Ça, c'est...
Oui. Les hippopotames aussi ont une drôle de manie. Quand ils se trouvent sur les berges, par exemple, des rivières, ils en font profiter toute une communauté de poissons.
Alors là, si vous avez l'image, c'est ahurissant. C'est un véritable distributeur, on dirait une manif de la FNSEA. C'est un distributeur de purin, c'est-à-dire qu'il fait des excréments assez liquides en tournant la queue. Donc ça va partout, ça éclabousse les autres et les dominés éclaboussent le chef en signe de soumission.
Ouais.
Et ça, c'est une nourriture pour tous les poissons. Là où les Africains ont tué leurs hippopotames, il n'y a plus de poissons. Donc c'est important. Hein.
C'est le grand panda aussi qui fait des acrobaties.
Il fait le poirier
pour faire pipi pour
marquer plus haut, hein, parce que ça montre la dominance aussi, la hauteur. Les chiens souvent lèvent la patte le plus haut possible pour se faire plus gros qu'ils ne sont.
C'est
donc
vrai.
C'est important aussi ça.
Et il y a de véritables batailles aussi chez certains insectes qui utilisent les excréments, c'est ça, pour protéger leur territoire cas.
Oui, il y a plein de batailles des amphibiens aussi. Absolument.
La guerre.
Des têtards qui ont des excréments qui empoisonnent la nourriture d'une autre espèce. Enfin, il y a vraiment une guerre des crottes insoupçonnée.
Ouais. Lisa nous dit ceci. Pourquoi, dans presque toutes les espèces animales, les organes d'évacuation des déchets, urine, fesses, sont anatomiquement si proches, soit juste à côté des organes de reproduction?
Il y a une logique, il y a une entrée, une sortie. Mais il y a des animaux, c'est pas le cas. Hein. La méduse, par exemple, n'a qu'un orifice digestif qui fait tout. Donc elle avale avec son trou de balle, si vous voulez, ça fait tout. L'escargot, il a la tête au bout du pied, les yeux au bout des cornes, il pond par la tête et il a l'anus près de la narine. Ouais. Donc en fait, tout le monde n'est pas fichu comme ça finalement.
C'est très étrange. Denis nous dit, dans les Alpes, on se chauffait à la bouse de vache il y a quelques années.
Ah, voilà. C'est vrai, on le fait toujours en Inde et dans d'autres pays.
Jean-Paul nous dit, on peut déterminer un individu d'une espèce comme le loup et connaître ses déplacements grâce à l'analyse génétique ADN d'un de ses poils, par exemple, trouvé dans les excréments.
Bien sûr, il y a un code génétique, il y a des cellules entières, donc on sait parfaitement que tous les loups qu'il y a chez nous, même dans les Pyrénées, viennent d'Italie. parce qu'on a séquencé leur génome comme ça. Oui, il y a beaucoup. On voit aussi, par exemple, l'état de stress des animaux, parce que le cortisol, l'hormone du stress, se voit. Et il y a eu des études sur les crottes de macaques pour savoir lesquelles étaient les plus stressées dans la hiérarchie. Ouais. Donc, ce sont ni les chefs, ni ceux de tout en bas, ce sont ceux du milieu, ouais. parce qu'ils ont la pression du haut et du bas. Il faudrait faire les mêmes études dans les bureaux sur les selles des cadres et des employés pour savoir quels sont les plus
stressés. Ce serait très, très populaire. Il y a les singes hurleurs aussi, hein, qui font leurs excréments le matin à la même heure et tous en groupe. Hein.
Tous en groupe, donc, ils font ce qu'on appelle le gardening, c'est-à-dire qu'il jardine.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Marc Giraud, donc avec Roland Garrigue, Safari dans la bouse, autre découverte bucolique chez Delassault et Nestlé. Et donc Thierry Béraud, votre documentaire Mais là sur l'urine, ce sera vendredi sur Arte à 22h20. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
Curtis Mayfield, Move On Up sur France Inter. La semaine reprend avec le quiz scientifique de la Tête au Carré. Florence Porcel est à mes côtés, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous avez passé un bon week-end, Florence.
Très bon, merci.
Vous nous avez préparé plein de questions.
Oh oui.
Et vous allez nous présenter nos nouveaux candidats.
Chouette, bonjour Catherine, bonjour Joé.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux, vous avez l'air également en pleine forme.
Oui, ça va. En pleine forme, oui.
Catherine, vous habitez à Lille et vous êtes étudiante. Dans quel domaine exactement ?
En psychologie.
Et vous en avez encore pour quelques temps ?
5 ans peut-être.
Ah oui, quand même. Ah oui, vous êtes relax alors, finalement.
Oui, j'ai fait un doctorat, donc tranquille.
Ah ben, ça se voit, oui. Ça s'entend. Vous vous destinez à quoi exactement alors ?
Je voudrais faire la recherche en neurosciences.
Ah, très bien. Face à vous se trouve Joey, qui habite à Annemasse, en Haute-Savoie. Bonjour Joey.
C'est bien cela, oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous faites, Joey, dans la vie exactement ?
Je suis actuellement à la recherche d'un emploi et comme j'ai du temps à perdre, je fais un voyage à travers l'Europe pour les lieux de science et ce genre de choses, pour écrire un petit essai là-dessus.
Mais c'est une bonne idée, voilà. Ça.
Mais c'est formidable, faudra nous l'envoyer.
Une fois qu'il sera écrit, je le ferai. Voilà.
Donc c'est une sorte de petit guide scientifique, c'est ça ? Des lieux de science à découvrir en Europe ?
Voilà, c'est ça. Comme je suis à côté de la Suisse, j'ai fait Berne en premier, donc avec Einstein. Je suis allé à Bonn,
ouais.
Je dois faire Berlin, je dois aller à Copenhague. Et je fais Toulouse, la Cité des Étoiles, dans quelques jours. Et après, je fais quelques distances comme ça à travers l'Europe.
Le scientifique tour de Joey.
Voilà. C'est joli comme ça.
Voilà, donc on a deux scientifiques avec nous. Catherine et Joey, je vais vous souhaiter bonne chance et surtout vous dire que l'un d'entre vous va remporter un livre des éditions Belin.
Mais oui, le livre Micromonde, un voyage sous l'œil du microscope.
Allez, on commence avec la question d'actualité, Catherine et Joey. Voici cette question. Au printemps prochain, un projet de loi visant à la création de la future agence française pour la biodiversité va être discuté au Parlement. Quel scientifique franco-canadien a accepté d'en être le parrain ? 30 secondes pour votre réponse.
Hubert Reeves.
Eh ben voilà, tout simplement.
C'est Joey qui a eu une longueur d'avance.
Eh oui, Joey. Parce que je vous ai dit franco-canadien ou parce que vous le saviez ? Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie ?
Parce que je savais que franco-canadien, ça sonne tout de suite.
Eh ben oui, ça sonne Hubert Reeves, effectivement.
Voilà.
On pense avoir un peu plus, Florence ?
Mais oui, il convient de ne pas se contenter de stopper l'érosion de la biodiversité, mais de s'engager dans une action ambitieuse de reconquête, a annoncé Hubert Reeves. Donc, la future agence rassemblera plusieurs établissements publics et la Ligue de protection des oiseaux estime qu'il était temps, quand on apprend que l'Europe a perdu 421 millions d'oiseaux en 30 ans, selon une étude parue lundi dernier dans la revue Ecology Letters. L'urgence est là, effectivement.
Voilà, Hubert Reeves qui vous rapporte donc 10 points. Joey, Catherine, ne vous inquiétez pas, tout est possible, largement.
Oui.
Vous avez entre autres les questions de rapidité qui arrivent, elles sont au nombre de 7. 1 minute 30 pour y répondre. Surtout, n'hésitez pas à nous donner votre réponse le plus rapidement possible. Et si vous êtes prêts, nous lançons le chrono.
Je suis prête.
C'est parti. Du nom de quel animal a-t-on baptisé l'objet informatique qui sert à pointer et à cliquer ?
Souris.
Oh, parfait. Oh là, égalité parfaite.
Égalité, 5 points chacun. De quelles céréales sont principalement composées les pâtes alimentaires en France ?
Maïs.
Le blé.
Le blé, Joey. Comment s'appelle la dune la plus haute d'Europe ?
Pilat.
Pardon ?
Oui.
La dune du Pilat.
Oui, c'est bonne réponse pour Joey. Quel est le nom du troisième osselet de l'oreille moyenne ? L'étrier, le marteau et ?
Marteau. L'enclume.
Catherine, bonne réponse. Comment appelle-t-on l'agglomérat de gaz, de cendres et de cailloux qui dévale les pentes lors d'une éruption volcanique ?
Pyroplasmique.
Lave.
Non. Ça signifie nuage brûlant. Allez, je vous aide un peu. Cet agglomérat de gaz, de cendres et de cailloux, vous les voyez dévaler.
Méthane, je
ne
sais pas.
Allez,
on passe à la sixième.
Je ne sais plus.
Quelle particule médiatrice de l'interaction électromagnétique se déplace à environ 300 000 km par seconde ?
Photon.
Le photon. Catherine, bonne réponse. Comment s'appelle le botanique tchèque qui a donné son nom aux trois lois de l'hérédité biologique ?
Darwin.
Non. 1865.
Mendel.
Mendel, oui,
Mendel,
absolument.
Bonne réponse pour vous, Joey. Et nous revenons à la question sur les volcans. Comment appelle-t-on l'agglomérat de gaz, de cendres et de cailloux qui dévale les pentes lors d'une éruption volcanique ?
Entre
200 et 600 km/h.
C'était les nuées ardentes. Les nuées ardentes.
Ah, vous avez bien joué, hein. On sentait Catherine totalement exaltée.
Ouais.
Alors Florence, on fait le total des points.
Oui, alors faisons le total. Nous avons 15 points pour Catherine et 20 points pour Joey.
Voilà, donc petite avance pour Joey. Tout est possible encore avec ce mot mystère, hein, Catherine. Ne relâchez pas votre attention. Vous allez d'abord faire découvrir le mot mystère à Joey. Vous avez 45 secondes, Catherine. C'est donc vous qui commencez. On lance le chrono, c'est parti.
C'est un mot qui concerne l'étage supérieur d'une forêt. Mais que je
ne
connaissais pas, donc
la
première
fois. La canopée de Joey. Voilà, et vous connaissiez bien apparemment cet endroit donc au sommet des arbres, influencé par le rayonnement solaire, très étudié aussi par les scientifiques.
Oui. Hein. Oui.
Le radeau des Cimes, entre autres, on se souvient
par
Francis
exemple.
Allais, célèbre pour avoir fait connaître justement la canopée. Allez, dernière manche de ce jeu, c'est à vous de jouer, 45 secondes, et vous faites le maximum pour faire découvrir le mot mystère à Catherine, c'est parti.
Eh bien, très bien. C'est une période où l'on monte les animaux en montagne, où on les descend.
Il y a des migrations, des transhumances.
Transhumances. C'est bien, Catherine, parce que vous nous faites part de votre réflexion interne. Voilà, à haute voix. Mais c'est bien, on a vu le cheminement qui vous a emmené jusqu'à la transhumance. Bravo à tous les deux, mais malheureusement, je crois que l'avance n'a pas été récupérée par Catherine.
Et non, c'est Joey qui remporte le jeu avec 40 points. Toutes nos félicitations.
Voilà, on va vous envoyer donc ce livre Micromonde. Oui. Alors, ça va vous intéresser, hein, vous qui aimez la science, Joey.
Oui. J'aime beaucoup les livres aussi.
Eh ben, c'est formidable. Alors, c'est un voyage, vous qui aimez les voyages également, un voyage sous l'œil du microscope. Oui. Voilà, c'est aux éditions Belin.
Donc, vous allez faire de drôles de découvertes, très certainement. Merci, Catherine. C'était agréable d'avoir une candidate dynamique aussi comme vous.
Merci à vous, c'est marrant.
Et puis, bon courage pour la suite de vos études en psychologie. Joey, surtout, vous nous envoyez votre guide scientifique une fois que vous l'aurez terminé, évidemment,
avec
et édité.
Plaisir.
Et puis, on vous souhaite de bons voyages donc dans l'Europe scientifique. À bientôt à tous les deux. Et puis, franceinter.fr pour les auditeurs qui souhaitent nous rejoindre.
Exactement.
À bientôt, au revoir.
À très bientôt.